réponse. Je ne réponds pas au cours de métaphysique maintenant, je répondrai au cours de métaphysique après. Et nous sommes en éthique, alors nous allons essayer de voir. Alors, ça, c'est une question tout à fait particulière. Je ne vais pas répondre non plus à ça. Peut-on librement se donner la mort volontaire? Alors, vous voyez, c'est la question du suicide. On verra ça peut-être une fois comme une question particulière, mais je ne veux pas la traiter. C'est trop extrinsèque à ce que nous voyons. C'est une question qui est importante à se poser, mais ce n'est pas une question directement, on ne peut pas tout traiter. Alors, nous allons maintenir et continuer ce que nous avions vu la dernière fois, c'est-à-dire essayer d'entrer dans cette nécessité de poser les vertus, de la naissance des vertus et de la nécessité des vertus. Vous vous souvenez, nous avions fait un petit arrêt sur l'acte libre. Je ne vais pas entrer plus profondément sur l'acte libre, mais nous essayons d'entrer maintenant sur le point de vue de la nécessité de poser des vertus. Ceci provient du fait que l'acte humain d'amour, d'intention, de choix, d'impérium, se réalise toujours dans la lutte. Nous sommes bien portés naturellement vers le bien, c'est sûr. Mais d'autre part, il y a en nous des forces adverses qui ne nous portent pas vers le bien, qui nous porte vers ce qui est le bien sensible immédiat. C'est-à-dire qu'il y a en nous la concupiscence. Quand je prends les concupiscences, je les prends tout simplement les passions du concupiscible, qui font qu'on ramène tout à soi. Il y a en nous aussi l'irascible. C'est pas la peine de tâter beaucoup le pouls pour s'apercevoir que de temps en temps, on a des petites colères qui poussent parce que ce n'est pas exactement ce que nous avions prévu. On arrive à fond de train, la porte est fermée. Espèce d'imbécile qui a fermé la porte. Hein? Immédiatement, ça jaillit. Hein? On ne le dit pas nécessairement tout haut, mais intérieurement, c'est ce que nous disons. Et c'est constamment comme ça. Donc nous sentons bien que de fait, il y a une lutte où, à l'égard d'un bien sensible, immédiat, qui nous attire, le chocolat, hein, pour prendre le chocolat symboliquement, parce que le chocolat acte est toujours ce qui excite, ce qui éveille notre concupiscence et qui risque de nous arrêter. Tout simplement, on s'arrête devant le chocolat, symboliquement, parce que pour chacun d'entre nous, il y a une espèce de chocolat particulière qui nous arrête et qui nous attire. Et alors, ça, c'est le concupiscible, c'est le bien immédiat. Nous voulons la présence de telle personne auprès de nous. Elle est absente, elle n'est pas là, Pierre est absent, il n'est pas là, et nous avions espéré. Alors, on est de mauvaise humeur parce que Pierre est absent. Et on ne sait pas que Pierre est absent parce qu'il y avait 36 autres choses qui l'empêchaient d'être là. Et pour nous, c'est immédiat. Plutôt que de dépasser, dire, attention, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, on est de mauvaise humeur et on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la satisfaction qu'on désirait, la joie qu'on avait de la présence de telle personne. Cette présence étant pour nous un réconfort. C'est notre chocolat d'une autre manière, vous voyez? Mais c'est vrai, c'est une présence. Alors c'est un peu plus spirituel, c'est bien évident, c'est plus spirituel. Ça peut être même très spirituel quelquefois. Mais c'est l'immédiat. C'est le spirituel lié au sensible. Et le spirituel lié au sensible veut le point de vue immédiat. Et si cet immédiat n'est pas fait, ne nous est pas donné, alors on a tout de suite la tristesse. On a tout de suite un repliement sur soi. Il faut être lucide, hein, vis-à-vis de ses passions. Ça, c'est pas commode. Mais il faut acquérir cette lucidité. Acquérir cette lucidité, savoir qu'on est comme ça. C'est de fait naturel. Comprenez bien, hein, je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis c'est naturel que lorsqu'on a l'éveil d'un appétit sensible, qu'il y a une petite brisure vis-à-vis de cet appétit sensible qui nous est retiré, sans que nous en sachions le motif, immédiatement il y a un repliement. Un repliement affectif, ce repliement affectif est soit une fuite, ah si c'est comme ça, j'ai compris. C'est la fuite. La fuite affective. La fuite affective est une passion. C'est une des passions du concupiscible. Quand le bien ne nous est pas donné immédiatement. Ou bien alors, on entre en colère. Ah, si j'avais su ça. Et alors, on entre en colère. Et alors, on sent très bien qu'à ce moment-là, pendant un certain temps, surtout si la passion est assez véhémente, on n'est plus capable de poser un acte humain, volontaire, en vue de notre bien. Il y a un remous, c'est les tempêtes de lac. Toutes les passions sont des tempêtes de lac. Et les tempêtes de lac, c'est un peut-être très véhément, surtout quand les lacs sont profonds. Alors ça va très loin. Alors, on sent très bien qu'il peut y avoir cet arrêt. C'est important de saisir cela. Et de saisir comment ces arrêts proviennent du concupiscible. Le concupiscible en soi est bon, ne disons pas qu'il est mauvais, mais c'est quand le concupiscible l'emporte sur le volontaire. Alors à ce moment, le concupiscible devient mauvais quand il l'emporte sur le volontaire. Le concupiscible est bon, l'irascible est bon. C'est bon d'avoir un irascible fort, c'est bon. Parce que quand il n'y a que le concupiscible sans l'irascible fort, c'est très ennuyeux. Parce qu'on est incapable de lutter. Tandis que l'irascible nous permet de lutter et nous apprend à lutter. Alors à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui nous aide à lutter. Il y a des choses qui ne vont pas dans le sens qu'on avait prévu, mais on sait que on peut lutter pour essayer d'acquérir autre chose. Donc, il y a des arrêts qui empêchent l'acte humain de se développer parfaitement. Pourquoi ? Et c'est facile à comprendre. C'est parce que en nous, nous l'avons vu plus d'une fois, l'affectivité n'est pas simple, elle est complexe. Il y a l'affectivité spirituelle, il y a l'affectivité passionnelle, il y a l'affectivité instinctive et il y a l'affectivité imaginative. Il y a ces zones très nettes d'affectivité qui sont en nous. Et c'est toujours du côté affectif. Hein. Alors l'affectivité spirituelle, c'est ce qu'on appelle la volonté. L'affectivité imaginative, c'est l'affectivité imaginative. L'affectivité passionnelle, c'est l'affectivité sensible, imaginative, c'est l'affectivité sensible, c'est la passion, et puis l'affectivité instinctive, l'instinct. L'instinct qui est orienté vers le bien sensible que nous désirons. L'affectivité passionnelle également. Alors, l'imagination se nourrit constamment du point de vue passionnel et du point de vue instinctif. Parce que l'imagination est dans l'ordre sensible ce qu'il y a de plus spirituel. Pour reconnaître, hein, coup de chapeau à l'imaginaire. L'imaginaire est ce qu'il y a de plus dans l'ordre du sensible ce qu'il y a de plus spirituel. Mais aussi ce qu'il y a de plus difficile à orienter. Parce que plus spirituel. Parce que moins déterminé, parce que anarchique. Déjà, les passions sont anarchiques. Déjà, l'affectivité sensible est anarchique, par nature. Elle n'a pas de finalité extrinsèque à moi. Donc, elle est anarchique. Tandis que l'instinct a une finalité propre, la procréation. Tandis que l'affectivité passionnelle n'a pas de finalité. L'affectivité spirituelle a une finalité, puisque c'est la personne humaine que j'aime. C'est ce bien spirituel. Tandis que la passion, non, c'est anarchique. Et c'est pour ça, quand elle n'a pas son bien, elle-même veut toujours se revenger. C'est très curieux, ça. Et alors, c'est là les liens entre le concupiscible et les racines. Quand vous n'avez pas le bien immédiat, hein, vous voulez vous venger. Et se venger, c'est les racines. Vous venez sur vous-même, ça arrive. Hein. On arrive à se mordre. Parce que l'os qu'on n'a pas, on ne l'a pas, alors on se mord soi-même. On a toujours un os près de soi, comme ça. Alors c'est ça, on se mord. Et alors à ce moment-là, c'est cette petite vengeance, vous voyez, parce qu'on n'a pas son bien. Ou bien alors on mord l'autre. C'est plus sain, n'est-ce pas, que de se mordre soi-même. Mais c'est vrai, ça, c'est l'irascible qui veut se venger. Alors, c'est pour ça que c'est très, très... C'est pour ça que je dis anarchique, parce qu'à cause du concupiscible et de l'irascible, il y a un cercle. S'il n'y avait qu'un seul concupiscible, s'il n'y avait qu'un seul passion, il n'y aurait pas de cercle, ce serait dans un seul sens. Ce serait le flux et le reflux. Le flux et le reflux seraient simples. Hein. Ce serait le bien sensible, puis le mal sensible. Ça, c'est le flux et le reflux. Le bien attire, le mal fait l'inverse. Mais comme il y a les racines, il y a une troisième dimension. Et la troisième dimension fait que on est pris par un cyclone. Vous voyez ? On est pris par le fait de l'irascible veut venir venger le concupiscible qui n'a pas son os, n'est-ce pas ? Et qui est loin. Alors on est de mauvaise humeur. Être de mauvaise humeur, ça provient de quoi ? C'est votre irascible. C'est pas votre concupiscible. C'est votre irascible, mauvaise humeur. Votre concupiscible vous met triste. C'est pas la même chose. Être de mauvaise humeur, c'est pas la même chose que la tristesse, être de mauvaise humeur. On renvoie promener tout le monde. Hein? Renvoyer promener tout le monde, ça c'est des racines. Le concupiscible, on est triste, on est fermé sur soi. Entièrement fermé sur soi. Tandis que l'irascible est actif. Il est très actif. Il intervient entre les deux pour faire cette espèce de tournoiement constant de l'activité passionnelle. Et quand on est pris dans ce tourment passionnel, on ne voit pas par où on peut en sortir. Parce que c'est comme ça, c'est vraiment quelque chose qui nous saisit. Et nous avons tous, hein, plus ou moins développé, tout dépend. Si la volonté spirituelle est plus développée, alors notre activité passionnelle peut être saisie, peut être finalisée. Et quelqu'un qui avait beaucoup de volonté, dès qu'il voit, qu'il sent un tout petit peu cette tornade, hein, et qui sait un très petit peu, alors à ce moment-là, il veut en sortir. Un acte d'adoration. Il faut beaucoup de volonté. Un acte d'adoration. Un acte d'adoration me fait sortir de cette tornade. Ou, tout simplement, un acte d'amour à l'égard de quelqu'un que j'aime. Me fait sortir de cette tornade. Il faut se réaliser. Alors, si c'est la personne que j'aime qui est occasion de tornade, c'est très difficile, il n'y a plus qu'adoration. Et quelquefois, c'est même Dieu qui est obligé de ça, parce qu'il ferait bien de se manifester un peu plus. Il ferait bien de se montrer un peu plus. Il se tait, il y a le silence, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile encore de faire l'adoration, parce qu'on a une mauvaise humeur vis-à-vis de Dieu. Ça peut arriver qu'on soit de mauvaise humeur vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est jamais de mauvaise humeur vis-à-vis de nous, mais nous, nous faisons de temps en temps la tête. Et ça, c'est l'irascible qui fait de nous faire la tête. Parce que Dieu n'a pas répondu comme on aurait voulu qu'il réponde. On avait prié pour un examen, on rate. Vraiment, comme il aurait pu faire. Hein. Il aurait pu faire que ça. On avait offert des œufs à Sainte-Claire pour qu'il fasse beau à telle fête, et un très mauvais temps, quand même, hein. C'est pas bien. Alors on est mauvaise humeur. Parce que ça n'a pas réussi comme on l'a voulu. Mais bon, tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une tornade en nous. Hein? C'est bien. Et l'imaginaire est là pour, la, pour l'augmenter. Pour l'augmenter, c'est extrêmement curieux. C'est difficile à étudier ça, mais c'est très important. C'est très important d'essayer d'avoir un tout petit peu de lucidité. Sentir hein, que, qu'il y a de l'agitation. Et l'agitation du concupiscible et de l'irascible. Et savoir si on est un être plus de concupiscible ou d'irascible. Voilà. Si vous êtes plus irascible, dites-vous, ah c'est bien, c'est bien. Ça prouve que je suis assez proche de l'intelligence. Hein. Parce que ça me dit que l'irascible, c'est la passion la plus noble et la plus proche de l'intelligence. Alors, la concupiscible, oh, c'est parce que j'ai très bon cœur. Voilà. J'ai un cœur merveilleux, c'est pour ça que le concupiscible est particulièrement développé chez moi. Alors, c'est à cause de ça. Et c'est vrai qu'il y a un équilibre qui n'est pas toujours le même. Bon. Parce que l'imaginaire est très puissant en moi. Il est nécessaire de fortifier le volontaire. C'est la nécessité de fortifier le volontaire et de fortifier l'intelligence pratique. L'intelligence pratique, c'est ce qui ordonne ma volonté. C'est ce qui ordonne mon intention. Mon intention de vie. Elle joue un très grand rôle dans l'intention de vie, l'intelligence pratique. Voilà le bien qu'il me faut. Ce bien doit être ma fin. Ou bien ordonne les moyens, les choix. Ça joue au niveau du choix. Et ça joue au niveau de l'hypérion, puisque l'hypérion est un axe de l'intelligence. Bien, l'intelligence pratique joue à ces trois niveaux. Et l'intelligence pratique risque toujours d'être dépassée par l'imaginaire. Alors à ce moment-là, c'est la velléité, j'ai plus aucune force. Plus aucune force. J'ai plus aucune intention de vie. Alors, spiritualité de la planche. Ça, c'est la velléité, spiritualité de la planche. Je suis un bon à rien. On me l'a toujours dit quand j'étais jeune. Maintenant, je m'en aperçois. Je suis un bon à rien. J'avais cru que je pouvais quelque chose. Spiritualité de la planche. Vous ne luttez plus. C'est vraiment fini, s'arrêter. Oui. Alors, ça c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui vous donne. Ou le choix, ça a raté de choix. Alors vous dites, oui, c'est ça, c'est pas étonnant. Vous culpabilisez vous-même. On se culpabilise en disant non, je ne vaux rien. Alors à ce moment, on arrête l'intelligence et on laisse l'imaginaire. L'imaginaire nous prend. Alors, c'est là où il faut comprendre que l'intelligence pratique a besoin de se perfectionner par des plis qui sont dans l'ordre bien, ce qu'on appelle la vertu. Lexis. On va parler de ce que c'est que la vertu. Lexis. Et l'intelligence pratique est développée et perfectionnée par ce qu'on appelle la vertu de prudence. La vertu de prudence, ça s'acquiert. Hein? Ça s'acquiert, la vertu de prudence. Si je pouvais voir dans votre intelligence pratique où était le niveau de la prudence, vous va saisir bien où ça en est, je voudrais vous dire, il faudrait des doses homéopathiques de prudence. Hein? Alors faites des actes, parce que c'est toujours par des doses homéopathiques que ça progresse. Hein? Je fais des actes de prudence, je fais attention. Parce que je sais que je suis assez facilement imprudent. Je me laisse emporter. En moi, l'irascible est assez fort. Quand vous mettez en colère, vous m'en avez manqué de prudence. Surtout quand vous êtes mis en colère devant un supérieur. C'est un manque de prudence merveilleux. Quand vous mettez en colère après un choc, c'est un moins d'importance. Hein. Alors la prudence, là, est quelquefois. Mais vis-à-vis d'un supérieur, c'est grave. Hein. Alors, vous avez manqué de prudence. Parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Immédiatement, ça vient. Alors, la prudence n'a pas été suffisamment éveillée. La prudence n'a pas été assez. Alors, on va essayer de comprendre. La volonté, elle va être perfectionnée par une vertu aussi. m'appellera la justice. Je vous les nomme tout de suite pour que vous voyez bien l'ensemble, comment ça se tient. Parce que toutes les vertus se développent en même temps, elles sont connexes, c'est ça qui est très très bien. Vous ne pouvez pas être spécialisé en dans la justice. En disant, moi la prudence, non, je suis un artiste. Je suis un artiste, je n'ai pas besoin de la prudence. Mais je vais être juste. Vous ne pouvez pas être juste si vous n'êtes pas prudent. Et l'iracine va être développée par la force. Et le concupiscible va être développé par la tempérance. C'est la dernière des vertus. Vous avez donc là ce qu'on appelle d'une façon générale et classique, on appelle ça les vertus cardinales. Vous voyez comment elles naissent, et c'est ça qu'il faut essayer de saisir, on va essayer de comprendre ça. Vous avez les quatre vertus, les vertus cardinales, prudence, justice, force, tempérance. C'est très vieux ça, c'est très vieux dans la philosophie. C'est très curieux. C'est né avec les pythagoriciens, les premières fraternités religieuses. Parce que c'est dans la vie commune qu'on comprend le mieux la nécessité des vertus. Quand vous êtes un solitaire, personne ne vous fait aucune remarque. Alors vous ne voyez pas que vous manquez de prudence, que vous manquez de justice, que vous manquez de force et de tempérance. Tandis que dans la vie commune, ça se voit tout de suite. Et celui qui arrive et qui se sert d'une manière telle qu'il ne pense pas qu'il y a derrière quelqu'un d'autre. Il a manqué de tempérance, il a manqué de prudence. Il s'est servi comme s'il était seul. S'il est ermite, il a le droit. Hein. Mais c'est, il n'y a que Dieu, il y a en face de Dieu. Comment en face de Dieu, je ne vais pas me servir comme un glouton. Mais quand il y a dans la vie commune, il y a aussi le gendarme. Dieu a ses gendarmes. Et dans la vie commune, alors il y a tout de suite l'œil du frère qui dit vraiment, c'est exagéré. Et puis surtout quand ça se répète tous les jours. Hein. Parce que c'est une fois par semaine, ça peut encore aller. Mais ça se répète tous les jours. Alors, il manque de tempérance. Quand on voit Féli, il manque de force. Vous voyez, c'est dans la vie commune, c'est très curieux que philosophiquement, ça s'est développé au point de départ avec les pythagoriciens. C'est les pythagoriciens qui sont le lieu le plus ancien de cette philosophie, c'est bien une philosophie, de cette philosophie morale des vertus cardinales. Ça a été repris par Platon, ça a été repris par Aristote, et ça a été repris par les stoïciens, et c'est toujours resté, c'est très curieux. C'est très curieux de voir combien l'éthique demeure tout le temps. La métaphysique, il y a des moments où on la reprenait, pas l'éthique. On la bouscule, on lui donne des significations tout à fait différentes. Hein. On lui donnera des significations qui seront dans tout à fait artistiques. Vous voyez l'éthique de Sartre. C'est intéressant de voir l'éthique de Sartre. Cherchez dans Sartre les quatre vertus cardinales. Cherchez dans Sartre les quatre vertus cardinales. Parce que chez Sartre, c'est une morale de situation, comme on dit, c'est-à-dire une morale très influencée par le point de vue artistique. Une morale influencée par le point de vue artistique est une morale qui devient une morale d'efficacité, une morale de situation. C'est ce qu'on a dit, morale de Sartre, morale de situation. Pourquoi ? Parce que c'est plus une morale du bonheur. Alors une morale de situation qui fait que j'agis comme ça en raison de telle ou telle situation. Mais c'est plus le bien que je cherche. Alors, mais ce qui me semble très curieux, c'est que pratiquement, presque tous les philosophes, quand ils doivent parler des vertus, acceptent les quatre vertus cardinales. Comme si les vertus cardinales représentaient ce qu'il y a de tout à fait fondamental dans l'homme. Les marxistes acceptent les vertus cardinales. Les positivistes acceptent les vertus cardinales. Auguste Comte, c'est bien évident qu'il accepte les vertus cardinales. C'est sûr. Et même, il les épouse tous les matins pour qu'elles soient bien, 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 bien nettes. Parce qu'un positiviste est un homme vertueux. Il ne lui reste plus que la vertu morale. Il ne reste plus que ça. Alors, il faut bien qu'il se rattrape. Bon. Alors, il y a les quatre vertus cardinales qui sont là, bien, bien installées. C'est vrai, ça. C'est très vrai que ordinairement ils aiment ça, les quatre vertus qui restent. Vous voyez, c'est presque dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, je crois, c'est le noyau le plus central qui demeure tout le temps. C'est l'œcuménisme philosophique, les quatre vertus cardinales. Vous savez pourquoi on les appelle cardinales? Parce que c'est comme des gonds qui permettent de... Donc c'est tout repose là-dessus. On les verra, on verra, parce que c'est très important de bien comprendre ce que c'est que ces quatre vertus. C'est quelque chose de très très fondamental. Alors avant de regarder ces quatre vertus ensemble, essayons de regarder qu'est-ce que c'est que la vertu. Et j'ai dit exis. En grec, la vertu exis, c'est-à-dire habitus, en latin. Exis en grec, ce sont des états. Ce n'est pas des habitudes, ce sont des états, ce sont des plis. C'est ça qu'il faut dire. Hein? Quelque chose qui vient s'ajouter, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, la vertu. La puissance, la faculté, naturellement, n'a pas de vertu. Je ne suis pas né avec des vertus. Vous non plus, hein? Vous n'êtes pas né avec des vertus. Pas de vertu. Un gosse dans son berceau, quand on dit « Ah, ce qu'il est sage !» Il ne faut pas croire du tout qu'il a la sagesse. Non, non, il est sage parce qu'il ne pleure pas, tout simplement. Oui. Alors, il est sage. Qu'est-ce qui se passe en lui? Ah, ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est qu'il n'ennuie pas trop les gens, et surtout qu'il dort pendant la nuit. Alors, ça, c'est l'essentiel. Parce qu'il est sage. Mais non, un gosse dans le berceau n'a pas de vertu. Non, il n'a pas de vertu. On ne naît pas avec des vertus. On est avec des dispositions plus ou moins vertueuses suivant l'atavisme. C'est pas suivant l'atavisme. C'est pour ça que les parents trouvent toujours que leurs enfants sont merveilleux et délicieux parce qu'ils savent très bien que ça dépend de l'atavisme. Et donc, s'ils disent il est très méchant, c'est eux-mêmes. C'est bien, c'est le grand-père, mais on retrouve quelque chose. Les dispositions, c'est l'atavisme. Alors, il y a des dispositions plus ou moins orientées vers le bien. C'est vrai, ça. Il y a des dispositions plus ou moins bonnes ou des dispositions plus ou moins mauvaises. Ça, c'est sûr. Et ces dispositions, elles sont où? Elles affectent non pas la volonté comme telle, mais elles affectent le point de vue. Parce que la volonté est purement spirituelle. Est purement spirituelle comme faculté. Comme l'intelligence, purement spirituelle. Mais l'exercice de la volonté implique nécessairement l'affectivité passionnelle. C'est du côté des passions qu'il a des dispositions. C'est du côté des passions. L'hérédité s'inscrit du côté passionnel et du côté instinctif, pas du tout du côté de la volonté, pas du tout du côté de l'intelligence. Mais l'exercice de la volonté et l'exercice de l'intelligence dépendent de notre état passionnel. C'est en ce sens-là qu'on peut supprimer, par une petite piqûre, hein, quand on connaît bien les... On peut supprimer la possibilité d'exercer la volonté. Et vous allez avoir quelqu'un de purement taboulique. Vous pouvez très bien arrêter l'exercice de l'intelligence. Vous ne touchez pas la volonté et l'intelligence par une piqûre, mais vous pouvez arrêter l'exercice de l'intelligence et de la volonté parce que vous touchez le point de vue passionnel. Et le point de vue passionnel a un organe biologique. Et vous pouvez atteindre cet organe biologique une fois que vous l'avez détecté. Il y avait comme ça à Fribourg un chirurgien qui n'est pas resté très longtemps, mais quand je suis arrivé, c'était juste à ce moment-là où on en parlait beaucoup, beaucoup. J'ai un extrêmement intelligent, du reste, merveilleux. Il faisait une petite opération, je pourrais pas vous donner toute la technicité, mais elle est connue de cette opération. Vous faisiez une petite opération en 5 minutes. Le vieux grand-père qu'on venait amener, qui piquait des colères effrayantes, qui faisait une vie effarante, en 3 minutes, il était réduit à l'état d'un enfant de 4 ans. Il est touché là, quelques connexions, et puis alors comme ça, c'est... Oui, on le rendait aboulique. Alors on le conduisait après comme un petit toutou. Il était aboulique. On avait arrêté, on l'empêchait d'exercer sa volonté. Alors vous voyez, c'est ce qu'on dit habituellement. On dira, par une piqûre, on vous empêche d'être intelligent. Par une piqûre, on vous empêche de toucher la volonté, d'être volontaire. Attention, c'est pas à cause de ça qu'on touche l'intelligence et la volonté, mais on touche l'exercice. Nous ne pouvons pas faire un acte d'intelligence sans que l'imagination soit présente. Vous ne pouvez pas faire un acte de volonté sans que l'affectivité sensible et passionnelle soit présente. Or, on peut atteindre les organes des passions et l'imaginaire. Et on peut toucher des connexions qui font qu'à partir de ce moment-là, l'intelligence ne peut plus s'exercer. Vous n'avez pas touché l'intelligence, mais vous avez atteint l'exercice. Or, la plupart du temps, vous voyez, les gens confondent. Ils disent, vous voyez, bien, on touche la volonté, on touche l'intelligence, donc l'intelligence et le corps, l'intelligence et la volonté impliquent le corps. L'intelligence et la volonté sont des facultés spirituelles, mais l'exercice de ces facultés implique le corps. Et c'est très important de faire cette petite distinction, vous voyez, on la retrouvera en philosophie du vivant, parce que c'est très important de bien la faire, mais c'est très important au point de vue éthique. Parce qu'on peut très bien arriver à diminuer et même à supprimer l'aspect volontaire. Donc l'aspect moral, réduire quelqu'un à l'état d'un enfant de 4 ans, l'empêcher de poser un acte volontaire, vous le supprimez, son dominium moral. Et ça on peut, on le sait, on peut très bien, par certaines piqûres, arriver à vous empêcher de poser un acte volontaire et empêcher de poser un acte d'intelligence. Vous êtes à ce moment-là réduit à être quelqu'un qu'il faut pousser, tout simplement. C'est la dépense, c'est l'unité de l'homme, vous voyez. C'est l'unité de l'homme dans ses fonctions les plus élevées. Dans ses fonctions les plus élevées, là. L'intelligence est bien séparée, comme dit Aristote, mais séparée quant à son objet, mais pas quant à son exercice. L'exercice de l'intelligence est dépendant de l'imaginaire. Je ne peux pas faire un acte d'intelligence le plus élevé qui soit, un acte d'intelligence au niveau métaphysique, un acte de volonté dans ce qu'il y a de plus spirituel, c'est-à-dire quand il y a un point de vue surnaturel, un acte d'amour de Dieu dans ce qu'il y a de plus spirituel, sous la mouvance du Saint-Esprit. Eh bien, il dépend toujours de l'affectivité sensible. Toujours. Dans son exercice. Et c'est pour ça que je peux l'arrêter. Je peux violenter un homme jusque-là, par le point de vue sensible, par le point de vue, par le point de vue des passions. C'est le point de vue affectif, ou par le point de vue imaginaire. C'est les passions et l'imaginaire, vous voyez, qui font le seuil dans lequel j'entre dans le point de vue spirituel. Et je peux atteindre les passions et atteindre l'imaginaire et empêcher l'exercice de la volonté spirituelle et l'exercice de l'intelligence. Je suis donc dépendant de cela. Et comme on peut agir sur moi, sur le point de vue passionnel et sur le point de vue de l'intelligence, on peut me réduire à cet état-là. Ça explique tous les lavages du cerveau. Alors là, ça explique aussi les habitudes qu'on peut donner, des choses comme ça. Mais ça explique comment on peut agir très profondément sur le point de vue de l'exercice de l'intelligence et de la volonté. On n'agit pas directement sur l'intelligence et la volonté, mais on agit de l'extérieur. Tandis que, alors c'est là où je veux en venir, hein, tandis que lorsque j'acquiers un habitus, je l'acquiers de l'intérieur, et non pas de l'environnement. Je l'acquiers d'intérieur. Et c'est pour ça que l'acquisition des vertus, et c'est le propre de l'acquisition des vertus, c'est de déterminer les puissances, ma puissance de volonté, ma puissance d'intelligence, c'est de la déterminer de l'intérieur par une opération propre de volonté d'intelligence. Autrement dit, la vertu pousse de l'intérieur. Et c'est ça qui est important à saisir. Et c'est le propre de la vertu, c'est le propre de l'habitus. À la différence, au contraire, de l'aspect de la violence. La violence, j'agis de l'extérieur. Et quand j'exerce une violence sur l'exercice de l'intelligence et l'exercice de la volonté, j'agis toujours de l'extérieur par rapport à l'esprit. J'agis pas de l'extérieur. Vous voyez, j'agis sur le corps. Je violente le corps. Je violente l'équilibre, l'harmonie qui existe au niveau proprement passionnel et au niveau imaginatif. Alors, comprenons. Comment se fait-il que la puissance de volonté et que la puissance d'intelligence puissent recevoir une nouvelle détermination? Comment se fait-il? Pourquoi la volonté peut-elle avoir quelque chose qui la perfectionne de l'intérieur, c'est-à-dire acquérir un habitus? Acquérir quelque chose qui est un pli qui va de l'intérieur donner à la volonté une détermination plus grande. Une qualité, l'habitude c'est une qualité qui va dans le sens même de ma volonté, dans le sens même de mon intelligence. Je serai surintelligent. Quand vous pouvez acquérir un habitus, vous êtes surdoué, hein, mais surintelligent. Quand on acquiert un habitus du côté de la volonté, on devient survolontaire. Il y a quelque chose en moi qui vient s'ajouter à ma faculté, à ma puissance naturelle. La puissance naturelle de volonté. Et quand je dis puissance naturelle, je veux dire quelque chose que je n'ai pas acquis, qui est un donné. Quand mon âme spirituelle a été créée en moi, a été créée immédiatement en moi une puissance de volonté, une puissance d'intelligence. Mais cette puissance de volonté, cette puissance d'intelligence, n'étant pas totalement déterminée, peuvent acquérir de nouvelles déterminations. Et c'est là où j'essaie de comprendre comment cette puissance de volonté peut acquérir un habitus. Elle peut l'acquérir parce qu'elle implique en elle-même une indétermination. Elle implique en elle-même une indétermination fondamentale, une indétermination radicale. Elle implique en elle-même cela. Pourquoi? Parce que justement, la volonté par nature, ici je suis obligé de faire appel à des choses qu'on regarde en philosophie du vivant, n'est-ce pas ? Présupposé connu, hein, parce que la philosophie du vivant nous donne toute cette philosophie de la volonté, toute cette philosophie de l'intelligence. Alors je fais appel uniquement ici à des notions présupposées connues, que nous verrons en philosophie du vivant. La volonté est une faculté spirituelle qui regarde le bien universel, qui est ordonné vers le bien, vers mon bien universel. Je suis ordonné naturellement vers un bien spirituel. mais je ne suis pas ordonné naturellement vers tel ou tel bien. Naturellement, on est ordonné vers quelque chose qui me perfectionne. Prenez tout simplement l'exemple d'orienter sa vie. Le choix d'un ami, est-ce que c'est naturel? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient s'ajouter? Je ne suis pas déterminé naturellement vers tel ou tel ami. Autrement, ce ne serait pas libre. Je choisis tel ami. Donc, il y a dans la volonté même une indétermination qui demeure. Je sais très bien que je peux poser tel acte ou ne pas le poser. Vous voyez, tout le problème de la liberté. Tout le problème de la liberté qui montre bien comment dans la volonté, il y a une indétermination. Je suis déterminé vers le bien, toujours. Même quand je pêche, je me porte vers un bien apparent. Je crois que c'est mon bien. Et c'est pour ça que je le veux. Je veux toujours le bien réel ou bien apparent. Le bien apparent, c'est le bien imaginaire, et le bien réel, c'est le bien réel. C'est mon bien. Je suis toujours tourné vers le bien. Mais justement, ce bien peut être apparent ou peut être réel. Et ma volonté implique donc une indétermination radicale par rapport à tel ou tel bien qui ne correspond pas et qui n'est pas exhaustif par rapport au bien en général. Et c'est parce que ma volonté implique cette indétermination à l'égard de tel ou tel bien que je peux me tromper. Je peux vouloir un bien apparent. Je peux vouloir un bien sensible, apparent, immédiat, en laissant tomber le bien plus profond et plus spirituel. Je le reconnais quand je suis tout à fait de bonne composition et quand je ne suis pas passionné. Mais dès que je suis passionné, je ne vois plus. Je me précipite sur ce bien apparent. Je suis alcoolique, il suffit de voir une bouteille pour perdre complètement la tête. Et je me précipite dessus. Alors, on peut fortifier la volonté, la déterminer vers le bien qui est mon bien. Et cette détermination de la volonté vers le bien particulier se fera par l'acquisition d'habitus.
C'est une détermination.
La détermination de volonté par rapport au bien en général ou au bien particulier. Alors, il faut se poser dans quel domaine la volonté possède-t-elle cette indétermination à l'égard de tel ou tel bien. Est-ce que c'est à l'égard de l'amour d'amitié? Y a-t-il une vertu particulière à l'égard de l'amour d'amitié? Nous sommes partis de l'amour d'amitié, hein, n'oublions pas. C'est pour ça que je regarde tout de suite l'amour d'amitié. Est-ce que par rapport à l'amour d'amitié, il y a une vertu? Ou bien il n'y a pas de vertu? C'est très important, ça, c'est une grosse question. Aristote reconnaît qu'il y a des gens amicabilis. Il y a des gens non amicabilis. C'est vrai? Des gens qui sont aimables et qui font que spontanément on se porte vers eux. Amicabilis. Alors ils attirent plus. C'est une attraction naturelle. Vis-à-vis de l'amitié, il n'y a pas de vertu proprement dite. Naturellement, je suis capable d'aimer un ami. Sans la vertu. C'est extraordinaire. Et pour Aristote, c'est très important de montrer ça, parce que ça montre que l'amour d'amitié s'enracine dans l'appétit naturel. C'est la question de l'appétit naturel. Il y a l'appétit naturel vers le bien et vers un bien personnel, et donc vers une personne. Aimer une personne d'un amour volontaire, d'un amour de choix, aimer une personne mais ne relève pas de la vertu, ça relève directement de la volonté.
ça, ça montre combien l'amour d'amitié est enraciné dans notre volonté. Puisque ce qui implique un habitus, c'est justement quelque chose de second. Alors, où il y aura de fait la nécessité de l'acquisition d'un habitus, ce sera à l'égard de la justice. C'est pour ça que c'est la vertu de justice. Je n'ai pas nommé dans les vertus cardinales une vertu d'amitié. Non. Il n'y a pas de vertu d'amitié. Pour que l'amitié puisse vraiment se développer, parfaitement développer, il faudra des vertus. Et on verra la nécessité de ces quatre vertus pour que l'amitié puisse se développer. Ça, c'est très vrai. Parce que si vous aimez quelqu'un qui est injuste, il se profitera de l'amour d'amitié que vous avez pour lui pour prendre tout ce que vous avez en vos poches. Alors à ce moment-là, vous comprendrez, attention celui-là, hein, il n'a pas de justice. Donc l'amitié ne pourra pas durer. Ou vous verrez qu'il sera d'une intempérance absolue. Vous direz, non, ça ne va pas du tout. Ou vous verrez qu'il est d'une imprudence totale. Vous lui demandez de se taire, incapable de se taire, il manque de discrétion, ça brise. C'est très curieux que quand il n'y a pas ces vertus, l'amitié est brisée. Alors c'est une condition nécessaire pour qu'il y ait l'amitié. L'amitié n'est pas indifférente aux vertus, parce que l'amitié demande de poser un acte humain, et de poser un acte humain qui implique justement le choix de tel ou tel ami. Mais l'amitié ne relève pas de la vertu. L'amitié relève directement de la volonté. Tandis que la justice, pour bien payer ses impôts, il faut avoir la vertu de justice. Surtout aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir la vertu de justice. Pour pouvoir bien payer ses impôts, c'est la vertu de justice. Bon, on continuera d'essayer de comprendre. C'est ça qui m'intéresse ici, vous voyez. Voir comment les vertus s'enracinent dans ce qu'il y a de plus fondamentalement naturel en nous, et d'essayer de saisir où il y a un pli nécessaire pour l'enracinement de cette vertu.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.